RCF.
Nous aspirons tous à aimer et à être aimés, mais l'amour ne va pas de soi. Que ce soit dans le couple, dans la fratrie, entre parents et enfants, nous expérimentons tous les limites d'un amour que nous rêvons totalement comblant. Notre idéal de l'amour se heurte alors à une réalité qui nous échappe, et ce décalage est vécu douloureusement. Le thème de l'avidité revient très souvent au sujet de l'amour, car beaucoup en parlent comme un besoin impérieux, une folle envie à satisfaire, mais peut-on encore parler d'amour? Cette question est au cœur du dernier livre de Lita Basset, « Aimer sans dévorer », paru chez Albin Michel. Lita Basset, bonjour.
Bonjour.
On se trompe souvent sur ce qu'est l'amour?
Oui, il me semble qu'on prend pour de l'amour ce qui en est assez souvent de la caricature, c'est-à-dire j'aime bien employer des images et dire que quelquefois c'est vraiment de la colle, c'est-à-dire qu'on fusionne tellement l'un avec l'autre qu'on n'a plus l'espace pour être soi-même et la liberté d'être soi-même, ou alors ça peut être de la pâte à modeler où on passe son temps à vouloir correspondre aux attentes de l'autre et on attend que l'autre corresponde à nos attentes et finalement il n'y a pas cette liberté qui devrait caractériser, je crois, un amour authentique où on y trouve son compte. Tous les deux, des deux côtés.
Et ça se retrouve dans tout type de relation.
Tout à fait. Il me semble que dès qu'il y a un lien affectif, comme vous venez de le dire, que ce soit à l'intérieur d'un couple, que ce soit entre deux amis, dans les relations entre parents et enfants, y compris enfants devenus adultes. Enfin, finalement, partout où il y a de l'affectivité en jeu, on se confronte à ça.
Vous parlez de ce besoin abyssal d'être aimé. Où est-ce que s'origine ce besoin, il y a quelque chose d'insatiable là-dedans.
Alors là, je dirais quelque chose de très personnel. Moi, j'ai l'impression que nous venons de la patrie de l'amour, en fait. Que je crois que l'être humain, en venant au monde, a connu cet amour abyssal, cet amour infini. Si je prends les paroles de Jésus, il parle toujours de là d'où nous venons et là où nous allons. Nous venons de ce royaume de l'amour avec un grand A. Nous en avons la nostalgie finalement toute notre vie, bon peut-être plus fortement encore à certaines périodes comme l'adolescence ou le jeune âge adulte, mais enfin ça habite finalement tout être humain et je dirais que nous marchons vers cet amour parfaitement comblant.
Alors avec un grand A, ça veut dire qu'il y a un absolu, mais peut-on demander l'absolu à quelqu'un, notre frère, notre mère, notre conjoint, notre enfant?
Et c'est ça le grand piège, c'est que en fait ce que nous faisons en grandissant, c'est le deuil de cet amour parfaitement comblant d'où nous venons. Et je crois que la maturité, la croissance, la maturation, c'est vraiment de devenir progressivement conscient que l'autre a ses limites et que moi j'ai mes limites aussi. Et que finalement, même si nous vivons un lien tout à fait riche et intense, il demeure dans le relatif, c'est-à-dire que l'autre ne pourra jamais correspondre à la perfection, à cet amour grand A auquel j'aspire profondément et moi je ne pourrai pas non plus le lui apporter.
Votre livre s'appelle « Aimer sans dévorer », il est paru chez Albin Michel. Alors revenons avec vous sur le mot « dévoration ». Qu'est-ce que ça signifie, dévorer en amour?
Ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis que j'ai annoncé ce titre-là, Aimer sans dévorer, je constate à quel point il fait tilt tout de suite. C'est comme si tout le monde savait d'entrée de jeu de quoi il retournait. Aimer sans dévorer, aimer sans fusionner, sans annexer l'autre, sans faire de l'autre juste le prolongement de moi-même ou la personne sous laquelle je projette tout ce qui est en moi. Mais ça implique aussi aimer sans me laisser moi-même dévorer. Parce que au fond, c'est pas seulement aimer sans dévorer l'autre, mais c'est aussi aimer sans me laisser dévorer moi-même. C'est-à-dire aimer dans un lien qui laisse un espace entre vous et moi, qui vous permette d'être vous-même et qui me permette à moi d'être moi-même. Donc cette dévoration, on pourrait dire qu'elle a aussi une histoire, puisque nous commençons tous par être un bébé scotché au sein de sa mère.
Et au début, à la limite, c'est obligatoire, c'est même nécessaire d'être scotché à sa mère.
Complètement. Il y a cette phase totalement nécessairement fusionnelle de l'enfant qui a fait vraiment, qui a fusionné avec sa mère dans son ventre et qui, progressivement, va justement aller dans un chemin de différenciation. Là, j'ai vraiment lâché le mot clé, je crois. Et normalement, quand les choses se passent bien et que la mère, justement, permet à l'enfant de faire ce chemin de distanciation, mais de bonne distanciation, où l'enfant va pouvoir progressivement trouver ses marques, trouver les limites de son propre territoire et s'autonomiser, parce que la mère l'accepte profondément et qu'elle a fait elle-même ce travail de différenciation. Alors, si ça se passe bien, ben, tout le monde est content et on peut avoir vraiment des liens affectifs très riches plus tard. Mais le gros problème, c'est que souvent, ça se passe mal. C'est-à-dire que la mère ne laisse pas l'enfant faire ce chemin-là parce qu'elle-même ne a pas pu faire ce chemin. Alors après, il faut voir dans sa propre histoire. Et finalement, elle continue à fusionner avec son enfant. Et moi, je connais des mères qui disent les bébés, moi, les enfants, je les aime que quand ils sont bébés. Et après, quand ils grandissent, ils ne m'intéressent pas. Parce que, voilà, ils deviennent différents et justement, elles ne supportent pas que cet amour fusionnel dévorant, dévorant c'est peut-être un mot trop négatif, mais parce que ça peut être très comblant pendant un moment, mais elle supporte pas qu'au fond il y ait en face d'elle quelqu'un qui devient différent, qui soit un vrai vis-à-vis, c'est-à-dire pas forcément toujours d'accord, voilà.
Lita Basset, la Bible nous dit quelque chose sur cet aspect de dévoration entre parents et enfants ?
Il me semble que oui. Il y a un texte biblique que, en général, on n'aime pas beaucoup, mais qui est pourtant, à mon avis, fondateur. C'est quand Jésus dit dans les évangiles, n'allez pas vous figurer que je suis venu apporter la paix sur la terre. Parce que votre paix, c'est souvent justement une paix de fusion, confusion, dévoration. Je suis venu apporter les paix. Je suis venu, ajoute-t-il, séparer le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Donc, on peut remarquer que ce sont des gens très très proches, justement, comme par hasard. Moi, je crois que les problèmes viennent de là. Ça vient quand même de nos premières années. Ça peut nous modeler pour le restant de nos jours. Si cette épée n'est pas passée entre nous et notre plus proche, et notamment la génération d'avant qui nous a élevés, ça va être une fausse paix. C'est pas vraiment une relation pacifiée. Alors, ce qui me frappe dans cette phrase de l'évangile, c'est que, justement, c'est pas moi qui, un beau matin, me lève en me disant, aujourd'hui, je prends l'épée et je vais rompre avec ma mère ou avec mon père. Parce que c'est invivable, parce que c'est étouffant, parce que c'est manipulant, parce que c'est destructeur, etc. C'est un processus qui est d'origine divine, en fait. Parce que quand Jésus dit « je suis venu apporter cette épée », ça veut dire qu'il y a comme... Alors là, peut-être que c'est le moment d'introduire ce qui est au cœur de ce livre, qui est le souffle d'amour. Si nous nous laissons traverser par ce souffle, qui est fondamentalement le souffle de Jésus, si on veut bien, c'est-à-dire un souffle qui vient de l'amour avec un grand A, alors nous sommes comme poussés progressivement à prendre conscience que nous ne pouvons plus continuer à fusionner avec l'autre de manière à ce qu'aucun des deux ne puisse vraiment vivre sa vie. Et donc nous nous laissons au fond traverser par cette épée. Épée veut dire que c'est tranchant et que c'est douloureux, mais que c'est provisoire. J'aime bien dire le passage de l'épée, parce que c'est pour que justement la relation devienne vraiment vivante et belle à vivre, un peu comme on doit séparer le bébé qui vient de naître de sa mère.
Repère RCF.
Lita Basset, votre livre s'intitule « Aimer sans dévorer ». Il est paru chez Albin Michel. Alors, nous parlons avec vous des relations souvent très fusionnelles dans la famille, que ce soit entre une mère, un père et son enfant, ou alors dans un couple. Ça se rencontre aussi souvent, hein. Ouais. On dit on se bouffe l'un l'autre.
Ouais. Tout à fait. Et il semblerait bien que quand ça se passe comme ça dans le couple, c'est que ça n'a pas été résolu justement avec la génération précédente. Et c'est le drame, je trouve, de beaucoup de couples. C'est qu'au fond, tous les griefs qu'on se fait l'un à l'autre ont une préhistoire. Et que en réalité, on aurait plutôt des comptes à régler avec sa mère et, ou son père, et qu'au fond, c'est le texte de l'évangile dont nous parlions juste avant le montre bien, c'est avec la génération d'avant que les problèmes doivent d'abord se résoudre, parce que sinon après on a les mêmes problèmes avec son propre couple et après on continue avec ses propres enfants.
Alors vous donnez dans votre livre des paroles tranchantes de l'évangile, on en a déjà cité une et puis j'en reprends une. Si quelqu'un ne vient pas à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et aussi sa propre personne ne peut pas être mon disciple. Mmh. Alors la traduction œcuménique de la Bible est beaucoup plus soft, elle dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, mmh. et vous dites non, c'est vraiment haïr.
C'est haïr, ouais, ouais. C'est misein en grec qui a donné misogyne, ces mots-là, misanthrope. Donc c'est vraiment détester.
Et il y a une haine nécessaire à un moment donné.
Tout à fait, et c'est ce que je trouve très puissant dans ce texte-là et d'autres, c'est que la haine fait partie de l'amour. En psychologie, on le sait parfaitement bien, mais peut-être qu'on le sait moins dans les milieux chrétiens ou dans des personnes qui... dans les milieux où la spiritualité a une grande place. Et moi, ça me réjouit beaucoup que ce soit dans les textes bibliques, parce que ce qui est dit là, il me semble, c'est que tout amour qui peut nous porter même vers Dieu, puisqu'il s'agit de suivre Jésus, c'est-à-dire de suivre quelqu'un qui nous conduit vers la vie intense, riche, tout amour vraiment authentique, au fond, a passé tôt ou tard par une phase de... Là, c'est carrément la haine, parce que c'est dans le pire des cas, mais ça peut être la contestation, le refus, le rejet...
La crise d'adolescence.
La crise d'adolescence, absolument. Et ça peut se passer plus ou moins violemment. Mais là, on dirait que c'est presque le pire des cas, parce que c'est vraiment dans la haine, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai besoin vraiment de te mettre complètement à distance, je te supporte plus, etc. C'est que je suis en train de faire tout un chemin pour répondre à cet appel de la vie en moi, qui est en fait un appel à suivre ma voie, la voie qui m'est propre. Et donc, c'est un passage. Et donc, vous faites allusion au deuxième chapitre de ce livre, Aimer sans dévorer, qui s'appelle Le passage par la haine. C'est un passage de nouveau. C'est-à-dire que on va pas en rester là. Et c'est vrai que c'est très dédramatisant dans les familles, mais il y a des crises de couple, il y a des crises avec des adolescents, même des enfants, des fois ça commence, de se dire, c'est un moment comme ça et ça fait partie de la relation. Je me souviens qu'à une époque, il y a eu un de nos enfants, petit, il avait moins de 10 ans, qui un jour m'a dit, maman, je te déteste. Et j'avais dit, oui, c'est vrai. En ce moment, là, tu me détestes, tu es très fâchée contre moi. Et j'avais accueilli ça. Sans en faire un drame, mais une demi-heure après, il sifflotait et on était dans les meilleurs termes.
Oui, mais alors, ça résistait devant lui. Il y avait une consistance, il y avait quelqu'un qui pouvait entendre. Beaucoup de parents, c'est insupportable d'entendre.
Exactement. Beaucoup de parents donneraient une paire de gifles et puniraient, etc. Enfin, en tout cas, jadis, c'était comme ça. Aujourd'hui, je sais pas comment c'est, mais c'est vrai que je dois reconnaître qu'à cette époque, moi, j'avais déjà fait tout un travail dans ce domaine et que j'avais pu prendre conscience du fait que ce moment de rejet et de grande colère et faisait partie au fond de la relation et que ça ne mettait pas en péril la relation elle-même. Par exemple, dans les psaumes, il y a un passage où le psalmiste dit à propos de ses ennemis, je les hais d'une haine parfaite. Et en général, si on met des crochets puis on le prononce pas, tellement on a peur de ces mots-là. Mais c'est très rassurant que devant Dieu, on puisse dire qu'on déteste quelqu'un, parce qu'en ce moment, on le déteste. Et ce que j'ai compris dans ce verset, je les hais d'une haine parfaite. En fait, ça veut dire d'une haine totale dans le mot hébreu. Et ce qui veut dire que j'ai le droit d'aller jusqu'au bout de cette haine, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement dite, parfaitement exprimée, c'est-à-dire totalement exprimée. Que je vais au fond, jusqu'au fond de cette haine, comme je pourrais vider un abcès jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pus. Et après, une fois que j'ai déposé ça devant Dieu, je peux, le déposer devant quelqu'un, un être humain qui m'accueille avec ce que je ressens à ce moment-là. Mais après, il n'y en a plus. Après, il n'y en a plus. C'est déposé. Et on passe à autre chose.
Lita Passet, nous étions partis de la dévoration, donc le sujet est complètement squeezé, on devient un objet et il semble qu'il faille passer justement par cette haine pour retrouver son identité. Enfin, d'extrême en extrême, on va retomber sur ses pieds.
J'ai l'impression que plus on a été fusionné, annexé par quelqu'un, et surtout quand c'est la génération d'avant, parce qu'on n'avait pas trop les moyens de réagir, en fait, souvent.
Ça se faisait pas.
Et puis, il y a peut-être d'autres circonstances qui faisaient que c'était très menaçant de contester la situation. Alors, plus ça a été étouffé, plus on a été squeezer, c'est ça que vous avez dit.
Donc dans son identité.
C'est ça, et annexé, bouffé, on pourrait dire aujourd'hui. Plus le moment de rejet va être violent. Pour ma part, je dirais que ça a pas besoin de passer par les assiettes qu'on casse, les décibels et tout ça. Pour moi, ce que j'ai trouvé dans ma propre histoire important, c'était de pouvoir prendre conscience de la violence du sentiment. Un sentiment, à un moment donné, la coupe est pleine, quoi. C'est comme si la cocotte explosait, la cocotte sous pression, là. Mais vivre ça, c'est le traverser, oser le regarder, le traverser, certainement être accompagné ou pouvoir le dire à quelqu'un, même ça peut être une amie, quelqu'un de proche, pouvoir le dire, déjà, on le dédramatise, et puis ça se dégonfle, c'est impressionnant.
Repère, Béatrice Soltner.
Lita Basset, nous avons vu avec vous que aimer sans dévorer, ça n'est pas évident. Il y a un passage nécessaire souvent, c'est la haine pour se détacher et reprendre un peu son identité. Alors entre dévoration et haine, comment trouver un équilibre ?
Alors, il me semble que le passage, c'est la colère. Au fond, si je voulais définir la haine, je dirais que c'est de la colère refroidie, d'une certaine manière. C'est que, au fond, si mes mouvements de colère, où j'ai voulu exprimer quelque chose que je ressentais comme injuste, ou exprimer le fait que j'avais pas la liberté d'être moi-même, etc., qu'on me le laissait pas m'exprimer, etc., si c'était systématiquement étouffé, ça finit par devenir de la haine un beau jour, parce que c'est depuis trop longtemps.
D'où l'importance de pouvoir dire au moment opportun qu'on est en colère,
absolument.
Que le conflit puisse être possible dans la famille, notamment.
Absolument. Et j'avais précédemment écrit un livre qui s'appelle Sainte Colère, en prenant comme figure biblique Jacob, Job et Jésus, en disant que finalement, la colère, quand elle est accueillie par l'autre et qu'il y a un espace pour cette colère, c'est une force de vie extraordinaire qui permet justement à la personne de prendre mieux conscience de ce qu'elle est profondément, de son chemin propre et de son identité propre, que cette force de vie-là, si nous l'étouffons systématiquement chez un enfant, chez un adolescent, chez un adulte, eh bien, il vient un moment où ça tourne à la haine et que ça va être beaucoup plus douloureux et difficile dans la relation. Donc oui, c'est peut-être ça. En amont, il faut aller vraiment chercher du côté de la colère.
Et pouvoir se dire les choses, se mettre en colère avec son conjoint, notamment dans
tout
le couple.
Alors après, si on a fait ce chemin et qu'on voit qu'on peut faire l'économie de passer par par la hausse de ton, on peut faire l'économie des décibels, etc. Parce que il y a un espace qui s'est creusé entre les deux membres du couple. Alors on peut dire les choses autrement. C'est qu'aujourd'hui, j'ai, comme tout le monde, je suis passée par des phases de grande colère et tout. Mais ce qui me réjouit, c'est que prenons la relation de couple puisque vous en parlez. Maintenant, je dis facilement à mon conjoint, mais on n'a pas besoin de s'énerver pour ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette chose-là? Moi, mon avis est différent. Voilà, je veux bien te dire que moi, je vois les choses autrement. Et puis, on peut discuter. Et on peut, dans la mesure où on est rassuré que chacun aura son temps de parole, que chacun sera pris au sérieux et sera respecté dans son point de vue, on n'a pas besoin, après, d'être toujours sur le mode de la colère.
Et alors, aimer dans tout ça, aimer sans dévorer, c'est quoi, Lita Basset?
Je pense qu'un amour vraiment viable, vivant et traversé de ce souffle d'amour d'origine divine, c'est vraiment un amour où l'autre est un partenaire. Dans partenaire, il y a le mot part, c'est-à-dire que l'autre a sa part et moi j'ai aussi ma part.
Donc deux sujets qui sont capables de parler, de se taire.
Oui.
De laisser exister l'autre.
Et non seulement de laisser exister l'autre, mais peut-être laisser exister l'autre parce qu'entre les deux partenaires, il y a cet espace où souffle ce souffle d'origine divine et qui, au fond, supplée à tout ce qui est défaillant, très relatif, parfois bancal peut-être dans la relation, mais qui, au fond, est ce surplus qui vient de l'amour avec un grand A.
Donc, ne plus chercher l'amour avec un grand A, mais savoir qu'il nous précède.
C'est-à-dire, c'est pas ne plus le chercher. Je disais à un moment donné, j'ai renoncé à ce qu'une personne, un être humain sur cette terre, m'apporte l'amour avec un grand A, même y compris mon conjoint, celui avec qui je vis.
C'est le rêve de tous les amoureux, ça,
pourtant. Mais j'ai renoncé à ça, que ça soit lui qui m'apporte tout cet amour grand A, mais je n'ai pas du tout renoncé à recevoir l'amour grand A. Et je le reçois. mais je le reçois de 10 000 manières, en fait. Et c'est comme si mon acceptation de l'amour petit a, tel que je le vis dans le relatif des jours avec mon conjoint et avec d'autres, me permettait d'être plus sensible à cet amour grand A qui m'enveloppe, qui nous enveloppe tous, qui nous entoure tous.
Et alors ce souffle dont vous parlez, c'est qui ?
Pour moi, quand on a dit Dieu, on n'a rien dit aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot Dieu ? Mais pour moi, c'est vraiment celui dont Jésus disait toujours que c'était lui qui l'avait envoyé vers les autres. Donc c'est vraiment cette puissance relationnelle de Dieu en nous et entre nous. On peut l'appeler le vivant avec un grand V, on peut l'appeler le tout autre, que je perçois personnellement à l'origine de ma vie et m'accompagnant au jour le jour et m'attendant en quelque sorte dans cet amour grand A auquel j'aurais aspiré toute ma vie, quoi.
Et comment se reçoit ce souffle dans la vie quotidienne, dans nos familles, justement, dans le couple?
Je crois que pour moi, il se reçoit chaque fois que j'ai fait ce que je pouvais dans une relation, et quelquefois je peux très peu. Mais une fois que j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais, même si c'est très peu, je suis assez émerveillée de voir que les choses bougent. Le souffle, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait nous déplacer, qui fait que les choses ne sont pas comme elles ont toujours été, qui fait que les gens changent alors que nous disions elle changera jamais. C'est tout ça. Et il y a une puissance de vie là, qui est une puissance relationnelle, qui se passe dès lors que je reconnais mes limites et mon impuissance. Je suis allée jusque là, mais je peux pas plus que ça dans cette relation là. Et là, il se passe des choses.
Oui, parce que pour reprendre les exemples que nous avons évoqués, dans la relation avec un adolescent ou même avec son conjoint, il y a un moment, c'est l'impasse totale. On voit plus rien, c'est le noir total.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on fait là ?
Je peux vous donner un exemple très concret. Une fois, un de nos enfants était en pleine crise d'adolescence, toujours assez révolté, enfin révolté dans le sens provocateur, on va dire. Il supportait pas qu'on lui dise non, en particulier. Et un jour, dans la cuisine, qu'est-ce qu'il m'avait demandé où j'avais dit non, je sais pas. Il commence à prendre un verre, il ouvre le placard, il commence à prendre un verre, un deuxième verre, un troisième verre, il jette par terre. Sur le dallage, ce qui veut dire que c'était, il y avait des éclats de verre partout. Et puis, tout le placard à vaisselle allait y passer. Et c'était tellement énorme que, alors là, c'est le souffle d'amour, je vous assure. C'est que, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai vu l'ampleur de la situation. Et je lui ai dit, tout à coup, mais tu es pieds nus, là. Dans cette cuisine, tu vas te blesser parce que les éclats de verre sous la plante des pieds, ça peut être terrible. Et c'était très spontané, comme je l'ai dit. Alors, il me regarde, il dit, mais tu te préoccupes de mes pieds ? J'ai dit, bah oui, c'est vraiment très blessant sur la plante des pieds, le verre cassé. Et à ce moment-là, ça a complètement désamorcé. C'est le souffle d'amour, ça. Parce que c'est bien de l'amour d'avoir de l'intérêt pour l'autre et ça déplace, au fond, ça déplaçait l'attention, mais c'était pas calculé, ça venait d'ailleurs, si vous voulez. Immédiatement après, j'ai quitté la cuisine royale, comme la reine d'Angleterre, qui n'a plus à s'occuper de rien. Puis lui, une demi-heure après, j'ai constaté que tout était rangé, il avait tout nettoyé, mis à la poubelle les débris de verre et tout.
Oui, mais alors ce souffle, il nous dépasse, c'est un inconnu qui vient et qui...
C'est un inconnu.
Et qui ne peut pas être du tout enfermé, mis en boîte.
Exactement, exactement. C'est ce que Jésus dit à propos du souffle saint. Il dit, c'est comme le vent. Il dit, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. Tu entends sa voix. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire, c'est que ça amène tous les jours tellement de surprises dans les relations. C'est toujours cette inattendu, même des fois on a l'impression que c'est très négatif ce qui se passe, mais moi j'ai pris l'habitude de me dire ça a l'air négatif, mais il y a quelque chose qui bouge, parce que voilà, t'es très déstabilisé en ce moment, mais peut-être ça va déboucher sur autre chose. Et en effet ça débouche sur autre chose qui est de l'ordre de la vie relationnelle, vraiment vraiment bonne à vivre.
Et dans ce que vous dites, il y a donc beaucoup d'espérance dans l'amour. L'amour concret que nous vivons les uns avec les autres. Il y a des issues, il y a des sorties, il y a des portes de sortie.
C'est ça. C'est que c'est au fond la perception, l'expérience que rien n'est jamais fichu définitivement. Il y a toujours une issue. C'est Maurice Bellet qui dit ça souvent. Et il y a toujours une issue. Mais c'est pas que j'espère qu'il y aura une issue, etc. Je l'expérimente. Je le vois au jour le jour parce que il y a cette réceptivité ou une autre manière de le dire, c'est que je reste pas enfermée dans mes portes et mes fenêtres, mais je m'expose. Je décide d'aller dans le vent, de m'exposer à ce souffle. au lieu de fermer mes portes et mes fenêtres en me disant restons à l'abri parce que ça sent le roussi. Non, je décide d'y aller, de m'exposer. Donc, ce qui veut dire m'exposer aux relations et aux rencontres. Mais ça, c'est un peu l'antipode de ce que on aurait tendance à faire, de se replier sur soi et de dire je veux plus entendre parler de cette personne. Ça, c'est fini à tout jamais. Cette relation, je préfère qu'elle ne plus jamais le voir cette personne. Enfin, etc. On est quand même souvent dans des ruptures qui sont de l'ordre de fermer ses portes et ses fenêtres.
Merci à vous, Lita Basset. Je recommande la lecture de votre livre « Aimer sans dévorer » paru chez Albin Michel. Merci à Joël Camus pour la mise en onde de cette émission.